Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission spéciale enregistrée depuis le Labo Friche à la Friche de la Belle de Mai. Je suis Elissa Guillon, à mes côtés Marin Maufray, pour animer cette seconde table ronde de cet événement co-organisé avec la Cité des Transitions pendant le mois de l'ESS, pour parler autour de table ronde des voies qui s'ouvrent au secteur dans des circonstances, ma voix particulière. Dans ce contexte de crise multifactorielle que prend de plein fouet le secteur de l'ESS, l'intention de la discussion à venir est de chercher des ressources et de l'inspiration pour continuer à avancer. Alors, prenons un peu de recul et regardons cette situation avec de la hauteur. Vu de haut, les pays, les structures et les humains sont autant de systèmes vivants intégrés les uns dans les autres, s'agitant avec passion, se structurant et se détruisant sur un temps plus ou moins long. D'ici, on peut observer la nature et les principes du vivant, qui représentent une source abondante d'inspiration pour nous aider à repenser nos stratégies. C'est un exercice qu'on aime bien faire avec la forêt des possibles, utiliser la métaphore de l'arbre et de la forêt pour se comprendre individuellement et collectivement comme et partie d'un écosystème, co-créant une société résiliente, créative et solidaire. Le vivant, il est économe. Il optimise la moindre ressource et il réutilise ce qui n'est pas dégradé. Il maintient son environnement propre, conscient qu'il est plus facile de préserver que de reconstruire. Il s'associe, coopère et mutualise pour être plus efficace dans l'atteinte de son objectif principal, la vie.
L'inspiration du vivant n'est ni nouvelle ni révolutionnaire. Il est même évident de prendre exemple sur des choses observables et qui fonctionnent. De la même manière, quel intérêt y aurait-il à ignorer un modèle qui a fait ses preuves ? De nombreuses structures du secteur font état de la réussite du modèle de l'économie sociale et solidaire, se positionnant où les besoins réels existent, s'engageant en faveur d'un monde juste et durable, façonnant avec patience les politiques publiques. Par leur modèle, les structures de l'économie sociale et solidaire luttent contre la pauvreté, favorisent l'accès à la santé et à l'éducation, promeuvent l'égalité, créent des emplois durables, soutiennent des services de proximité, accélèrent la transition écologique, préservent les ressources naturelles et encouragent la participation citoyenne. En défendant l'intérêt général, l'économie sociale et solidaire constitue une réponse solide aux objectifs de développement durable posés par l'Organisation des Nations Unies, voire la seule voie possible pour atteindre ces objectifs selon le Bureau international du travail.
L'ESS est donc un personnage principal dans ce chapitre du film de l'humanité. On n'en est pas encore à la fin, mais il est peu probable que ce personnage périclite avant le climax. Pour autant, il va lui falloir trouver des stratégies d'adaptation en ces temps périlleux. Nous n'aurons bien entendu pas le temps de citer toutes les stratégies possibles et leur évocation n'est en aucun cas une formule magique qui résoudrait les problèmes de toute structure en difficulté. Si le réalisme invoqué pour comprendre la situation a pu sembler lourd, nous nous devons de nous tourner vers l'espoir et nous demander comment l'ESS peut s'inspirer du vivant face à ces chocs et quel schéma d'adaptation les structures peuvent adopter dans ce contexte de crise du secteur.
Nous recevons autour de cette table trois invités pour nous parler de stratégies que des individus et des structures portent aujourd'hui à leur échelle. Julie Telfour, coordinatrice des activités et des services du Tiers Lab des Transitions, tiers lieu d'expérimentation plurielle. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Adélaïde Combi, voilà, le micro est transmis, co-déléguée régionale du CORAS, PACA, réseau de l'insertion par l'activité économique. Je suis un peu fatiguée. Bonsoir Adélaïde.
Bonsoir, merci.
Et Lucas Zufik, coordinateur de projet chez Amerma, association qui accompagne une transition industrielle vers le low-tech et également co-rédacteur d'une BD sur la Convention citoyenne pour le climat. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, eh bien, ce que nous allons vous proposer, c'est de présenter différentes échelles de stratégie d'adaptation du moi au nous et du nous au tout, des échelles individuelles, collectives et systémiques. Et pour cela, eh bien, Julie, je te laisse la parole.
Merci et merci de m'avoir invité ce soir. Du coup, moi, je vais parler de ma casquette du Tiers Lab et de coordinatrice. Donc, nous aussi, on a vécu un petit moment de crise. Mais très concrètement, deux des enseignements, le qu'on a retenu de ce moment-là. Le premier, c'est de prendre soin. Je pense que c'est vital. Je pense qu'on le sait toutes et tous. On parle d'épuisement, on parle de burn-out et c'est très important. Mais une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? Et pour prendre soin, déjà, je pense que la première étape, c'est de changer aussi de récit, de parler plus des moments de crise, de d'oser en parler, en fait, tout simplement. En fait, aucun collectif n'est invincible, aucun collectif n'est parfait. Je pense que nous, on en a vécu un, on en vivra sûrement plein d'autres, des différents. Vous aussi, alors parlons-en. Pour vous donner un exemple, nous, à Marseille, on a un petit collectif d'espèces de coworking. Et en fait, très concrètement, au-delà de faire des choses ensemble d'un point de vue business ou en tout cas service et développement, moi, je le vois plus comme un groupe de parole où on vient et on se partage nos tracas et en fait nos petits moments difficiles. Et ça, c'est vraiment une soupape. Donc, comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on a nos soupapes où est-ce qu'on en parle? Un autre exemple aussi qui me tient à cœur, c'est la société Tank de production de documentaires qui est très chouette aussi et qui va au cœur des projets. Ils ont notamment documenté pas mal de projets de coopératives. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'ils sont très concrets, très terrain. L'idée, c'est pas de dire que tout est beau, tout est parfait, qu'on est des coopératives, qu'on fait que le mieux. Mais en tout cas, on essaye de le faire et pour autant, c'est pas simple. Donc voilà comment on prend soin les uns des autres. Et nous, à l'échelle de notre organisation, on s'est posé des questions très concrètes qu'on voit partout dans les débats et dans l'actualité. Le temps de travail, comment est-ce qu'on peut le réduire sans faiblir, sans culpabiliser aussi. Et tout ça, en fait, c'est hyper important. Comment aussi on sort de nos espaces. On a un lieu et pour autant, on a besoin d'en sortir aussi très souvent pour s'aérer l'esprit. Et donc tout ça, ça me paraît hyper important. Et une dernière ressource que je trouve hyper chouette, c'est aussi pour prendre soin, il faut le documenter, il faut l'étudier, se regarder. Donc par exemple, il y a le processus de recherche-action de Inspire, qui est un processus qui a étudié et qui étudie encore la santé mentale des dirigeants, qui est très chouette et que je vous recommande vraiment de regarder. Il y a pas mal de ressources en ligne. Voilà sur une première échelle.
Merci beaucoup, Julie. On va passer la parole à Adélaïde pour une échelle plus régionale et interstructurelle.
Oui. Alors tout d'abord, je vais essayer d'être assez synthétique, mais les échanges qu'on a eus juste avant ont remué beaucoup de choses à l'intérieur. C'est plein de sens et d'interrogations. Mais j'ai envie d'être pleine d'espoir ce soir et j'ai envie de repartir à la maison avec des belles images. Moi, je suis Adélaïde, j'ai 34 ans et je suis déléguée régionale d'un réseau qui s'appelle le CORAS, que personne ne connaît ici, sauf les experts de l'insertion par l'activité économique, peut-être. Ce n'est pas un gros mot, l'insertion par l'activité économique. C'est un modèle, ou plutôt une politique publique, qui a été plébiscitée il y a 30 ans par des élus, des ministres, des sénateurs, et qui aujourd'hui se casse la figure, tout simplement parce que dans le plan loi finance annoncé pour 2026, 14% de baisse de financement sont annoncées, ce qui est considérable. Je reviens sur l'insertion par l'activité économique. C'est un secteur qui propose de prendre les gens qui sont dans la marge en France aujourd'hui et de leur proposer de remettre un pied dans la vie active, ce qu'on appelle la vie active, et encore une fois, on pourrait mettre beaucoup de guillemets, par le travail, la formation, la montée en compétences sur des métiers. Et c'est une politique donc de l'État qui ruisselle dans les régions. Et le CORAS PACA accompagne des entreprises d'utilité publique, sociale et territoriale à accompagner du coup des entreprises à remettre des gens dans l'emploi. C'est un modèle donc qui fonctionnait jusqu'à maintenant, qui est de moins en moins plébiscité par les ministres. Et un des messages que j'ai envie d'envoyer peut-être, mais qui est peut-être un peu hors sujet avec la question, mais c'est important de le redire, et je rebondis sur ce que disait David sur l'enjeu de plaidoyer, qui en fait incombe à toutes nos associations, toutes nos structurations, mais aussi à nous toutes et tous dans cette salle. Je peux paraître complètement vintage en disant ça, mais d'aller voter, d'aller interpeller nos députés, nos élus, parce que je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on a encore la main et il faut rester dans l'action.
Merci Adélaïde. Des plaidoyers pourraient être portés jusqu'à des échelles nationales et politiques. Et Lucas, tu as plusieurs casquettes. Et là, sur ce premier tour de table, eh bien, je t'invite à parler au titre de ta casquette de co-auteur de la BD sur la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, il y avait toute une réflexion sur le financement de l'ESS qui rentre aujourd'hui vachement en écho avec les questionnements qu'on a sur le vote du budget, sur la taxe Glucksmann. Je te laisse la parole pour en parler.
Merci. Et si tu veux bien, avant ça, je vais prendre ma casquette de président d'Intermed pour parler d'une enquête qui a été réalisée par Intermed, qui est en fait dans un réseau national qui s'appelle le KIF, avec d'autres accompagnateurs, d'autres incubateurs régionaux de projets de l'ESS. Et ils ont lancé une grande enquête pour savoir un peu ce que devenaient les projets qui avaient été accompagnés et les personnes qui avaient été accompagnées dans ces projets-là. Ce qu'il en ressort, c'est pas un panorama qui est très joyeux, comme vous pouvez vous en douter, avec beaucoup de personnes justement qui disent que soit elles sont en burn-out, soit elles sont en difficulté pour maintenir leur structure à flot, etc. Et il y a un verbatim que j'aimerais vous partager parce qu'il m'a été donné par le directeur de Intermed. Une personne qui a répondu « Mais moi, j'ai pas besoin d'un psy, j'ai besoin d'argent. » Voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne phrase quand même pour expliquer aussi les difficultés. Et là, hop, je prends ma casquette Convention citoyenne pour le climat. Comment faire pour trouver de l'argent ? Quels dispositifs nationaux existent aujourd'hui pour soutenir l'ESS ? Vous pouvez aller regarder, c'est assez simple. En gros, faites du crowdfunding, donc demandez à des gens de vous aider. Ou alors, vous inquiétez pas, on va favoriser la commande publique pour l'ESS, ce qui revient à nouveau à faire du financement par projet. On y reviendra juste derrière. Et ça, c'est quand c'est fait dans la commande publique. Bref. Donc effectivement, la Convention citoyenne, pour revenir rapidement dessus, c'est 150 personnes qui avaient été tirées au sort pour représenter une France miniature, donc c'est-à-dire vraiment une diversité d'âge qui représentait la France, une diversité de territoire, une diversité de niveau d'études, bref, etc., etc. Et donc ces 150 personnes qui se sont formées du coup dans ce processus, ils ont proposé quelque chose d'assez intéressant pour financer l'ESS. Ils ont dit justement, monsieur, on va faire une banque de l'ESS. C'est-à-dire que, en fait, ce fonds collectif et solidaire dédié à l'ESS, il serait financé, comme c'est un peu le cas aujourd'hui déjà, par des prélèvements sur le livret développement durable qui sont proposés par les banques, mais aussi par des prélèvements sur le livret A, ce qui n'existe pas aujourd'hui, avec des emprunts d'État aussi auprès de particuliers, d'entreprises. Et ce qui est peut-être le plus intéressant et qui résonne en ce moment avec la taxe Zucman, c'est finalement prélever sur les dividendes, attention, hein, gros mot, sur les dividendes qui sont donnés par les entreprises, 4% de ces dividendes pour des entreprises qui donnent plus de 10 millions annuels et 2% pour des entreprises qui donnent moins de 10 millions annuels mais qui distribuent quand même du dividende. Évidemment, ça fait partie des mesures qui ont été complètement rejetées. Donc voilà. On pourrait se financer comme ça, aller chercher l'argent là où il est donné, mais voilà, au niveau politique, blocage.
Merci à tous les trois de nous avoir resitué un petit peu pourquoi il est important d'agir à différentes échelles et quels sont les leviers dont on peut s'emparer. Pour ce deuxième tour de table, on voudrait aller un petit peu plus dans le détail sur les stratégies d'adaptation qu'ont pu mettre en place les différentes structures dans lesquelles vous êtes engagés. Alors Julie, tu nous avais évoqué la crise qu'avait traversée le Tierlab des transitions. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus voilà, les réponses que vous avez trouvées ?
Oui, complètement. Cette crise, elle a été assez longue, mais finalement, le moment où on a vraiment pris le sujet à bras-le-corps, un des enseignements qu'on a eu, c'est de se faire accompagner. On s'est fait accompagner à plein d'endroits. La première personne, c'est une coach, la coach Christine, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je pourrais vous donner ses coordonnées, elle a un nom et un prénom aussi. Mais ça a été une personne vraiment fondamentale, même en tant que collectif, qui travaille sur des sujets de gouvernance et d'intelligence collective. On continue de se faire coacher, je pense que c'est essentiel, et accompagner. Ensuite, on s'est fait accompagner par des partenaires, notamment l'URSCOP au niveau du LICA, qui a été vraiment un partenaire clé aussi bien dans la réflexion stratégique, économique et plus globale. Et je pense que c'est là aussi où c'est important d'avoir des partenaires avec qui on reste très liés, puisque du coup, ils nous connaissent, ils connaissaient l'histoire qu'on avait, notre passé, donc notre ADN, et donc c'était hyper précieux. Et ensuite, nous, au niveau du Tiers Lab, on s'est fait accompagner par un cabinet de conseil spécialisé en immobilier durable qui s'appelle Éthique et qui est venu nous décortiquer jusqu'à la moelle tous nos BP, donc business plan, qui nous a permis aussi de remettre à plat tout notre modèle économique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il peut y avoir une réticence à aller chercher de l'aide. Parce qu'aller chercher de l'aide, c'est montrer qu'on est faible, qu'on n'a pas réussi, qu'on a failli. Pour autant, nous, on s'est fait accompagner à tous les étages. Et je pense que c'était essentiel. Ça a été long. Parfois, on entend des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. On soulève des tapis, on découvre plus que ce qu'on ne pensait. Pour autant, le résultat, il est hyper intéressant. D'une part, parce que nous, ça nous a permis de nous questionner, nous rendre compte que en fait, la gouvernance partagée, c'est ça. C'est aussi se mobiliser à ce moment-là. Souvent, en fait, quand les choses roulent, on se voit une fois par an, c'est très sympa, on est content. Mais là, en fait, on avait vraiment besoin de soutien. Ça a été des vrais relais de solidarité qui ont pris soin aussi des équipes. Parce que je trouve qu'aussi, nous, on est une SIC, mais quand on est aussi une ASSO, il y a l'équipe terrain, c'est souvent celle qui prend la première vague. Là, c'est aussi des gens qui ont pu prendre le relais là où nous, on n'était plus trop en capacité. Ensuite, parce que du coup, d'un point de vue très concret, aujourd'hui, les résultats sont plutôt très encourageants. On a repriorisé, on parle de ça. Enfin voilà, ça nous a vraiment permis aussi de remettre les choses à plat, de regarder la vérité. Notre modèle éco, il tenait pas en tant que tel. On a pris des choix et là, on voit déjà des résultats encourageants. En plus, on est monté en compétences et on s'est vraiment saisi de ce qu'on était. Et du coup, in fine, on s'est reconnecté à notre vision. Et le deuxième enseignement, c'est que vraiment, cette question de la gouvernance partagée, elle a été clé pour nous. Puisque du coup, je trouve que dans un projet, notamment associatif ou entreprise, la personne du cofondateur, de la fondateur, de la fondatrice est hyper importante, prend beaucoup de place parfois, incarne une vision, un projet. Et du coup, quand cette personne part, souvent le collectif, après, a du mal à prendre la suite. Là où nous, l'enseignement qu'on tire à notre échelle, l'ICA Tiers Lab, c'est que du coup, on était déjà un collectif qui du coup a pu rebondir parce qu'on s'est ressaisi de ce qu'on était, de ce qu'on a fait, et en fait, on a pu le traverser. Et du coup, tout ça, ça pose la question de la juste place du dirigeant. En quelle mesure il ou elle est en capacité de transmettre, de laisser la place aussi aux autres pour exister. Qu'est-ce que ça veut dire, un rôle de fondateur, cofondateur? Et du coup, il y a beaucoup d'informels derrière. Et il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient intriquées, qui faisaient que on s'en était pas rendu compte jusque-là. Il y avait en fait des processus de décision qui étaient plus adaptés. Et donc tout ça, ça nous a aussi permis de réactualiser notre gouvernance. Je l'ai évoqué, on a des nouveaux coopérateurs, des nouveaux associés dans la SCOP. On a un nouveau CA qui est plus ouvert, plus diversifié, qui nous ressemble plus. Et donc aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est ça, moi, ce que je dirais d'un point de vue très concret. Je dis pas que c'est la recette magique. Vraiment, si ça se trouve, je reviendrai dans un an sur ce plateau et je vous dirai, non, finalement, ça n'a pas marché. Mais je pense qu'en tout cas, nous, on l'a senti en septembre. Donc, pour vous dire, c'est quasiment un an après, quand on a fait un séminaire d'équipe avec les deux structures, où là, il y avait comme un poids qui s'était un peu retiré de nos épaules. On se disait que finalement, peut-être qu'on était sorti, en tout cas, du nœud ou en tout cas du vortex, et que là, on va dire que l'avenir, en tout cas, était plus encourageant. Et vraiment, la question de la joie, Alina, tu l'avais évoqué. Nous, je pense que c'est à ce moment-là, quand on s'est rendu compte qu'on s'était déconnecté de la joie du projet, qu'il y avait un vrai, vrai sujet. Et donc, pour finir là-dessus, je pense que vraiment, faut pas oublier ses émotions. C'est un peu bête ce que je dis, mais je pense que nous, on avait un peu oublié un moment. Et le moment où on a sorti la tête et on a vu qu'on était de nouveau reconnectés complètement et alignés, peut-être que le gros du chemin a été fait. Voilà.
Merci Julie. À titre personnel, pour plein de raisons, ça résonne en moi, mais on pourra en parler après. On a beaucoup parlé de coopération. C'est des choses que vous mettez en place très concrètement, Adélaïde, avec le CORAS. Un projet, un PTCE particulier que tu nous as présenté quand on a préparé l'émission ensemble. Ce que je te propose, c'est de pouvoir nous présenter concrètement, en fait, tout le cheminement que vous avez eu là-dessus, pour que derrière ce mot, on puisse aussi comprendre ce que ça a comme incidence dans la vie des projets.
Oui, et avant de dérouler le fil de cette belle histoire, j'aimerais rappeler que je vais vous présenter un dispositif financé par l'État. Donc, c'est de l'argent public. Mais ce projet change d'échelle aujourd'hui grâce à un financement public. Je dis pas ça pour qu'on salue forcément le geste de l'État, mais je dis ça plutôt pour dire que on doit aussi faire avec ce qui existe depuis toujours. Et si on veut réinventer des modèles, il faut rester aussi cohérent et conscient qu'il y a des choses qui se font et qu'il faut aussi savoir embrasser l'occasion, embrasser l'opportunité. Et donc, je vais vous parler très concrètement d'un cas particulier, un événement qu'on a organisé il y a 2 mois sur le territoire de Grasse, que vous connaissez sans doute pour son parfum Fragonard, sans doute. Voilà, et puis que d'autres connaissent par ailleurs pour ses quartiers prioritaires. Bon, il y en a pas tant, hein, mais voilà. Ou pour Jérôme Viau, son président de la communauté d'agglomération, qui est quand même une figure politique très connue. Donc le CORAS a organisé, sous l'angle de la coopération, un événement qui s'apparente à une visite apprenante sur les terres de 10 agricultrices qui cultivent la rose centifolia, qui est une fleur emblématique du territoire de Grasse, et qui, il y a 10 ans déjà, 15 ans, avait dit « On ne veut pas perdre les savoir-faire de la cueillette de la rose centifolia, on ne veut pas perdre ces paysages précieux parce qu'on ne veut pas que les terrains soient rachetés par des grands industriels ou par des privés et que les terrains ne puissent plus être à la portée des agriculteurs. » Et en fait, ces agricultrices sont un peu venues nous voir. Enfin, tout ça s'est fait bien sûr dans une relation de confiance avec à la fois la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, ces agricultrices, des associations de citoyens et citoyennes locales. Et l'idée était d'embarquer avec nous des acteurs de l'ESS, des associations et d'autres personnes des autres départements de la région PACA pour venir s'inspirer de ce qui existe, de ce qui se fait en ce moment à Grasse. Et grâce à un dispositif qui s'appelle effectivement les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, le territoire de Grasse a pu vraiment changer d'échelle et œuvre aujourd'hui dans le cadre de la remise en emploi de personnes en grande précarité, puisque grâce à ce dispositif, France Travail et les associations locales ont réussi à signer des accords de principe pour permettre à des personnes en situation de précarité de travailler la rose centifolia sans avoir de connaissances, de compétences sur la cueillette de la fleur. Il faut savoir que ces fleurs, elles sont ultra fragiles et qu'elles sont très précieuses, très coûteuses et qu'elles vont souvent servir les intérêts de grands groupes, de holdings, Dior et j'en passe. Eh bien, il faut savoir que ces dynamiques donc, de femmes agricultrices, de là est né un regroupement à la fois d'industriels, d'associations locales, des prescripteurs, donc des acteurs de l'emploi, j'ai nommé France Travail, mais il y avait aussi la mission locale hein, qui fait aussi travailler beaucoup les jeunes. Tout ça dans le but de faire reconnaître le patrimoine local de la fleur de Grasse. Et je vous raconte tout ça parce que ça paraît rien, mais en fait, on a mis pendant 2 jours autour de la table 30 personnes qui ne se connaissent pas, donc des élus, des maires, des agriculteurs, des cultivateurs, des chimistes, des start-upers, des entrepreneurs, des députés. Il y a une députée qui a fait le déplacement. Et en fait, on a réussi à faire entendre que pour coopérer, il fallait du temps long, il fallait de la ressource humaine, donc il fallait de l'argent. Et que l'argent appellerait l'argent. Et comment... ça n'a pas été évident à faire entendre ça, mais quand ça vient nourrir un intérêt politique et quand ça vient nourrir des enjeux plus grands, finalement, que l'individu, souvent, on arrive à générer plein de belles choses collectivement qui, de toute façon, in fine, ruisselleront sur le territoire grassois. Et c'est voilà, un exemple de belles pratiques. J'aurais eu envie de parler de gouvernance partagée également parce qu'il y a aussi des enjeux de gouvernance dans ces écosystèmes. Un PTCE fonctionne parce que il y a 10 personnes autour de la table qui se disent à un moment donné, OK, on est tous différents, on vote pas la même chose, on n'a pas les mêmes ressources financières, on n'a pas le même rôle dans la société, mais on a envie de travailler ensemble et c'est maintenant qu'on va le faire.
Merci beaucoup Adélaïde. Et on a parlé de la coopération, on a beaucoup parlé dans la première table ronde du rapport au projet et au financement par projet, avec tout ce que ça pouvait entraîner en termes de difficultés de financement et de capacité à avoir des fonds de roulement. C'est quelque chose que vous avez mis au cœur de votre stratégie. Lucas, avec Amerma sur le fonctionnement par projet. J'invite à ton tour à nous présenter les différentes stratégies que vous avez mises en place sur ces questions-là.
Ouais, alors merci. Je dirais pas forcément qu'on l'a mis au cœur de notre stratégie. Je dirais que ça nous correspond bien par nature en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on a réfléchi ou qu'on a fait justement de façon stratégique en se disant on va faire que du projet et pas aller chercher des subventions. Mais l'asso pour laquelle je travaille, qui s'appelle Amerma et que je vais vous présenter, fonctionne comme ça par nature. Amerma, c'est une association marseillaise qui a 3 ans, donc on est une petite structure, ça c'est important, j'y reviendrai plus tard. Amerma, c'est une structure qui fait de, une association qui fait de l'étude et de la mise en œuvre de nouveaux modèles de production, en gros, local, utile et durable. C'est-à-dire, on va essayer de favoriser de la production locale parce que et de monter des modèles de production locale parce qu'on est persuadé que ça a un intérêt environnemental, évidemment, social très fort et économique aussi. On est persuadé qu'il faut relocaliser une économie réelle. Voilà. Donc, pour faire tout ça, on fait des études. Et donc, les études, on nous les commande. C'est un projet. On travaille énormément pour l'ADEME. Donc, on fait des études pour l'ADEME. Et effectivement, on travaille beaucoup sur du projet. Nos projets principaux, aujourd'hui, ils consistent en 2 choses, disons. La première, c'est accompagner des entreprises de production locale à aller vers de la sobriété industrielle, donc moins consommer d'eau, moins consommer d'énergie, moins consommer de ressources, moins produire de déchets, etc. En essayant, pourquoi pas, de questionner ce qu'ils font réellement. Et tu disais, ça peut être douloureux. Effectivement, ça peut être douloureux quand on va voir une entreprise et qu'on dit, t'es sûr que ton produit, il sert à quelque chose, en gros, réellement. Bref, mais c'est un passage obligatoire. La deuxième chose, surtout ce qu'on fait et dont je vais vous parler, c'est, on a pas mal parlé de coopératives, etc., de SIC. Nous, on est persuadé que c'est le modèle de production du futur qui permet à la fois de créer un écosystème, d'être solide, de travailler ensemble, d'avancer ensemble, d'impliquer les collectivités, d'impliquer des financeurs dans un projet d'intérêt collectif. Aujourd'hui, je peux vous parler d'un projet qui s'appelle COOTER, pour Coopérative Technique de Rénovation et Réhabilitation Écologique. C'est un projet qu'on a initié avec Amerma, on disait c'est sur du temps long, effectivement on l'a porté pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, cette coopérative en devenir, on reste une association de préfiguration pour l'instant, elle regroupe à peu près 70-75 structures de l'acte de rénover de façon écologique. Donc avec des matériaux de réemploi, avec des matériaux biosourcés, géosourcés, etc. Et avec ces 70 structures qui sont pas du tout à la base du champ de l'ESS. Ou alors c'est juste qu'elles le savent pas, elles le savaient pas. Maintenant elles le savent puisqu'elles sont par nature en SIC. On va investir un foncier qui est situé à Bougainville pour faire une plateforme de réemploi au moins pendant 5 ans, donc sur un site Euromed. Et donc ça, c'est une belle réussite d'un projet collectif qu'on a animé avec un nombre croissant toujours de structures. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, avec des gens qui croient au projet et qui participent de façon bénévole. Sur ça, avec Amerma, on a été financé par la ville et c'était un projet démonstrateur, disons. Et aujourd'hui, quand on essaye de répliquer ce qu'on a fait avec COOTER sur d'autres secteurs, donc notamment par exemple de la logistique urbaine durable ou un projet d'économie circulaire lié aux déchets du nautisme, en fait, on va pouvoir répondre à des appels à projets avec cette expérience-là. Et alors, la semaine dernière, à l'émission précédente, il y a quelqu'un qui a dit, il me semble que c'est Loïc Marsay qui avait dit, souvent il faut tordre ce qu'on fait dans l'association pour entrer dans les cadres de l'appel à projet. Nous, on est assez fiers d'une chose, c'est qu'on arrive de temps en temps à tordre des appels à projet pour faire rentrer les actions de l'association. Et ça, c'est pas mal. Et en fait, on est assez content de ça parce que on porte notre projet avec beaucoup de conviction, et quand on en parle aux services notamment, et de la région, même de la métropole, parce que les services ils sont pas forcément hyper orientés au niveau politique, quand on leur parle de notre projet avec conviction et qu'ils arrivent à y voir l'intérêt collectif, finalement on arrive un peu à faire en sorte que ça rentre dans le cadre d'appel à projet. C'est un peu notre stratégie aujourd'hui. Et on arrive comme ça à finalement se financer et financer des projets qui ont du sens. Mais à nouveau, c'est parce que notre association, on fait des projets par nature, quoi. Et je voudrais pas dire que c'est la solution, et je l'ai pas dit. Je dirais pas que, par exemple, les Restos du Cœur, ils pourraient fonctionner comme ça. Or, leur action, elle est hyper importante. Voilà. Donc, nous, on fonctionne comme ça. On a beaucoup de chance que ce soit par nature. Voilà.
Merci, Lucas. Comme pour la table ronde précédente, on va faire une ouverture à la salle pour contribuer, participer à ce plateau radio. Et eh bien, je vais inviter Alina Becca à être notre grande témoin pour cette table ronde également. Et je te passerai mon micro parce que, à des problèmes que tu nous as présentés dans la table ronde précédente, il y a aussi tout un tas de pistes de solutions que vous avez explorées. Et je te laisse la parole pour nous les présenter.
Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, il y a toute une ribambelle de solutions qu'on a bien évidemment testées en tant qu'acteur de l'ESS, donc forcément acteur inventif. On a fait face aux crises et on en a traversé en fait de nombreuses. Celle qui a mené à notre liquidation était une parmi d'autres. Et voilà, moi je voudrais insister sur la dernière crise qu'on avait vécue avant celle-ci. Qui avait été la grande crise de 2023-2024, on l'appelle comme ça dans nos livres d'histoire, et où du coup, finalement, en fait, on l'avait traversée. Donc c'était une crise financière, une crise aussi humaine, et les deux sont très, très souvent liés, puisqu'une crise financière amène à un épuisement, qui amène à des tensions, qui, surtout dans une grande structure avec une diversité d'activités, amène à une crise de sens parfois. Parce que c'est si difficile, genre, est-ce que ça en vaut vraiment la peine et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose vu que c'est si difficile? Bref. En tout cas, on l'avait traversé cette crise et là, je fais écho aussi à ce que racontait Julie. On l'a traversé tout d'abord par le soin et par l'accompagnement. Et nous, on avait été accompagnés justement par le LICA. Donc nous, notre coach, ça a été Béné du LICA et on l'appelait comme ça. Et on continue de l'appeler comme ça. Et en tout cas, on en était sortis avec quand même un collectif ressoudé. Des solutions aussi purement sur l'aspect financier qui ont été mises en place ou qui ont été accélérées. On avait déjà commencé à les mettre en place avant. On avait développé une activité notamment d'études et de conseils, donc des prestations. On commençait à développer notre activité de formation. Et c'est là où j'aimerais retourner quand même sur quelque chose, c'est le temps que prenne la mise en place de solutions. Déjà, il n'y a pas une solution unique. Il y a tout ce temps d'être sûr de ne pas tomber dans une marchandisation et dans une, enfin tout le temps de la mise en cohérence entre notre raison d'être associative et l'activité commerciale en fait qu'on injecte sur cette fameuse solution de la diversification économique. En fait, elle est pas magique, elle prend du temps. C'est une transformation des métiers. On rentre rarement dans une association en voulant y être commercial. Et d'ailleurs, on ne peut pas proposer de salaires en fait qui attirent énormément de personnes qui savent être des commerciaux un petit peu nés. Et du coup, ça prend du temps. Si bien que, triste ironie, nous on a obtenu notre certification Calliope, qui est un petit peu essentiel à la formation. On l'a obtenu le lendemain de notre liquidation judiciaire. Ensuite, on avait un autre projet, foncier d'ancrage de nos activités, de structuration plutôt autour d'un modèle de SIC, un projet qui avait été validé par le comité local de la SAFER quelques semaines avant notre liquidation. Le territoire, les différents acteurs du territoire, ils voyaient vraiment un intérêt. Nous, on voyait aussi à la fois l'intérêt et puis l'intérêt d'abord dans le cadre du développement de nos activités. Donc, il y aurait eu un espace de mutualisation agricole, un espace test, etc. Mais aussi un intérêt économique pour un petit peu changer de modèle. La problématique, ça a été qu'on a beau avoir cette vision. On était à la fois dans un nouveau souffle et puis dans une asphyxie au quotidien, ce qui a été très, très difficile à vivre, ce double mouvement. Donc, globalement, mon message, c'est que l'ESS, pivote déjà. Qu'elle essaye, qu'elle expérimente des solutions, que certaines fonctionnent, que d'autres non, mais qu'on ne peut pas nous demander à la fois d'être agile, d'être innovant, mais dans un cadre qui est à la fois imprévisible et peu stable. Et puis, juste pour une dernière petite réflexion, quand on a disparu, c'est vrai qu'un certain nombre de partenaires et de financeurs ont été sous le choc. Mais comme je le disais la semaine dernière, le choc était quand même un choc annoncé. C'est-à-dire qu'on a tiré le signal d'alerte à de nombreuses reprises. Mais ce qui a prévalu, c'est une espèce de présomption de résilience que les acteurs ont envers les associations et que les acteurs associatifs ont eux-mêmes envers eux-mêmes. Et c'est-à-dire que voilà, peut-être que à la fois nos partenaires et nous-mêmes, on se dit en fait on s'en sortira, on est hyper inventif, ce qui est absolument vrai. Et puis finalement, on a fait face aussi à certains financeurs qui ne nous considéraient pas comme des réelles entreprises en fait. Et donc ça, c'est assez paradoxal parce qu'on nous dit soyez plus comme une entreprise. Et pourtant, quand on présente nos budgets, on ne prend pas au sérieux le risque de cessation de paiement, le fait qu'on n'a pas de fonds propres ou peu de fonds propres pour faire face à des contextes économiques et politiques difficiles. Et puis nous-mêmes aussi, ça nous invite peut-être, comme le disait aussi Julie tout à l'heure, à être plus sincères. Alors non seulement entre nous, sur les crises, sur les difficultés, mais aussi avec nos partenaires. Bon, ce qui est difficile parce que en fait, souvent les financements dépendent quand même de la phrase suivante qui est bon, on traverse un peu une phase difficile, mais tout ira bien. Et peut-être d'être dans quelque chose de plus sincère encore, de plus vif. Peut-être une piste. Et puis voilà, en fait, pour vivre nos rêves, encore faut-il survivre. Et un coussin, du coup.
Merci Alina pour ce témoignage fort. Merci de jouer si bien le jeu de l'enregistrement par rapport à l'émission de la semaine dernière. Je vais vous inviter désormais au public à pouvoir prendre la parole. On a 10 minutes comme pour l'émission de la semaine dernière pour témoigner de manière spontanée sur des joies, des inventivités, des solutions que vous avez expérimentées. Donc pareil, vous pouvez vous lever, vous présenter et puis prendre la parole pendant deux petites minutes.
Bonjour, je m'appelle Valentine Café et j'ai travaillé pendant un certain temps pour une ONG de protection de la biodiversité, du vivant. Et voilà, je voulais partager deux idées avec vous. La première, c'est que donc pour l'avoir vécu, il y a eu un moment où nous vivions de subventions essentiellement publiques avec un petit peu de privé. Et est arrivé le moment où nous avions décidé de nous doter de quelqu'un qui avait la capacité de faire de la recherche de fonds grand public, un peu comme pourrait faire Greenpeace, parce que c'était une ONG de moyenne taille. Et on s'est vite retrouvé dans une situation où je voulais faire ce commentaire où ça est devenu un peu compliqué parce que avoir les deux dans certaines situations pouvait être complexe. Par exemple, il a été question de glyphosate ou de néonicotinoïdes. Il fallait devenir une ONG plus de plaidoyer, plus courageuse pour avoir plus de grand public qui allait nous subventionner. Effectivement, souvent on a envie peut-être de donner de l'argent à des ONG qui montent au créneau, qui vraiment vont avoir le courage de dire les choses. Mais si on avait trop le courage de dire les choses, on mettait en péril les subventions publiques ou de certains petits privés. Donc voilà, ça a été très difficile à trancher. Il y avait aussi une gouvernance qui était en devenir, on va dire. Ça, c'est une chose. Et l'autre que je me sens de dire, c'est que pour l'avoir vécu par rapport à tout ce qui est fonds carbone et forêt de je sais pas quel type d'arbres qui capturent plus de carbone et on détruit de la biodiversité pour ça, je pense qu'il faudrait vraiment changer nos indicateurs. Il faudrait peut-être unir les forces pour demander comme font beaucoup de personnes du GIEC, de scientifiques ou d'économistes, ils demandent à changer les indicateurs de la croissance, du bien-être d'une société. Parce que sinon, effectivement, on est moins rentable. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'une autre personne dans la salle a envie de pouvoir témoigner ?
Thomas, on a beaucoup parlé de capital monétaire. Je trouve qu'il y a beaucoup... Ce qui va avec ça, c'est le capital temps qu'on a parfois. Et on a entendu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et peut-être on n'a pas dit aussi que des fois, on se retrouve à... mettre des actions en place alors qu'on n'a même pas eu la réponse à un appel à projet, qu'on vient seulement d'en boucler un, qu'il faut s'enchaîner encore 3 semaines de réponse à d'autres appels à projet dans des timings qui sont absolument herculéens. et finalement, ben moi, ce que j'entends, c'est que dans des situations en plus qui sont difficiles, il y a un empressement, il y a un sentiment d'urgence, et que moi, ce que j'identifie souvent comme solution par ma posture en tant qu'accompagnant, et c'est ce qu'a partagé Julie, c'est le temps de la pause, c'est se faire accompagner, c'est mettre les choses à plat. Et c'est très contre-intuitif parce qu'on est dans des périodes où on a envie de se bouger, de mettre des choses en place parce qu'il y a des trucs qui sont urgentes. Et que, ben oui, de manière contre-intuitive, parfois la meilleure chose à faire dans ces temps-là, c'est de marquer le temps de pause, de se regarder de haut et de prendre le recul pour arriver à remettre les choses à leur place, les priorités à leur place. Et que, enfin voilà, au-delà de la gestion de l'argent, des fois, il se pose aussi la question de la gestion du temps qu'on a et qui peut aussi être un levier, malgré tout un tas de contraintes qu'il y a aussi, évidemment. Mais voilà.
Merci Thomas. Est-ce qu'une autre personne veut apporter un témoignage spontané ? Oui.
Oui, bonsoir. Je voulais réagir sur ce que Julie, tu as dit. Moi, je dirige le mouvement Colibri. C'est une asso qui a 18 ans, je restructure en profondeur depuis 1 an et demi. Je vais passer sur l'étendue des crises passées ces dernières années, on les a toutes faites. Et sur ce que tu disais sur la transparence, nous on a été confrontés à la question de l'extrême droite en interne. Pendant longtemps, on a mis des œillères, on n'a pas voulu voir, on n'en a pas parlé, on a gardé ça en interne, parce que forcément c'est compliqué la question de l'extrême droite et de l'écologie, même si aujourd'hui on en parle. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'en parler de manière publique à notre réseau de partenaires, avec un petit frisson quand même de se demander si la porte allait pas être claquée définitivement. Et à ma plus grande surprise, la quasi-totalité des partenaires, si ce n'est l'entièreté des partenaires, sont venus en renfort et nous ont aussi apporté des solutions pour passer cette crise. Aujourd'hui, on travaille avec un grand sociologue, on travaille avec Street Press, on travaille avec des chercheurs. Donc je voulais aussi partager ça parce que c'est vrai que Julie, je suis d'accord avec toi, on a souvent tendance à pas partager ce qui marche pas, notamment sur les aspects de gouvernance partagée, et pour le coup, puisqu'on a fait partie des assos qui l'ont porté, on a aussi fait cette connerie. Aujourd'hui on en parle aussi, notamment avec l'université du Nou, et ça a ouvert beaucoup de perspectives, et c'est, je trouve, hyper important de le faire, et c'est ce que ça rejoint aussi la question de la contribution en commun. En fait, si on partage pas nos erreurs, si on partage pas nos échecs, ça ne fait que d'alimenter, j'ai l'impression, une espèce d'échec commun. Et aujourd'hui, pour terminer, chez Colibri, on essaie de mettre en place des méthodes d'évaluation de nos expérimentations, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop fait non plus dans le passé, tout en se posant la question de comment on met cette question, l'évaluation et l'expérimentation avec les outils de suivi, tout en contribuant toujours au commun et de qu'est-ce qui doit être vraiment évalué et qu'est-ce qui ne doit pas être évalué aussi. Et du coup, je terminerai avec la question de la robustesse d'Olivier Amand, de laisser aussi les zones de flou pour pouvoir être en capacité de subir les aléas qui vont être très très forts dans les prochaines années. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Question du positionnement, question du rapport au temps, question du rapport à la transparence, question du rapport au commun. Et il y a d'autres participations.
Bonjour Elsa. Je voudrais vous apporter un petit témoignage. Je faisais à l'époque du sourcing de prestations touristiques durables. Et je suis allée dans la ville de Grasse, où mes parents habitent, pour rencontrer un tiers-lieu qui existe à Grasse et qui propose à la fois un Fab Lab, des ressources numériques, un site de compostage. Bon, ils étaient quand même assez pionniers à cette époque-là. Et j'avais dans l'idée d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait amener des visiteurs un peu curieux à venir sur ces lieux où la vie se réinvente pour profiter de leur temps de vacances et s'inspirer. Et quand on a commencé à parler concret, et quand on a commencé à soulever vaguement la question du modèle économique, là, j'ai vu un mur se dresser devant moi, et j'ai vu apparaître des termes « nous ne pouvons pas basculer dans la marchandisation ». Et donc là, on était dans un rejet total du flux financier. Voilà. Et donc, la porte s'est refermée à ce moment-là, avant même que j'aie eu le temps de lui expliquer comment j'imaginais le truc, avec justement l'opportunité de créer un modèle économique avec une forme de diversification. Bon, quand j'ai vu la taille du mur, je me suis dit « Ok, c'est pas mur, là, on reviendra plus tard ». Voilà. Je voulais juste partager ça parce que je pense qu'aussi dans les assos, on a un vrai souci sur le rapport à l'argent, déjà d'une part, et d'autre part, un vrai souci sur le rapport à la valeur. Et aujourd'hui, on sait, hein, y a plein de formes de valeur. Alors, on pourrait peut-être aussi compter dans notre comptabilité tous les coûts évités, tout le capital social qu'on crée, tout le capital intellectuel, tout ce que peuvent amener les coopérations, tout ce qu'on peut réussir à faire avec de la débrouille. Et la monnaie locale, c'est pareil. Hein. Pour moi, c'est un super outil à creuser.
Merci beaucoup. On va prendre une dernière intervention parce que c'est toi, Stéphane, qui nous accueille. Et après, on clôturera ce plateau radio.
Merci beaucoup pour ton acceptation. Moi, je voulais juste témoigner d'un endroit où je travaille aujourd'hui, qui est la coopération territoriale. Et je voulais faire un lien en disant que pour la Friche aujourd'hui, c'est par le soutien de la Fondation de France qu'on a réussi à créer un cadre de coopération avec nos voisins et les acteurs du territoire. Quand je dis acteurs, c'est autant les assos que les habitantes, eux, parce que c'est souvent des femmes qui se mobilisent. Et ça nous permet aujourd'hui de prendre le temps nécessaire de construire la relation de proximité et de confiance avec toutes ces personnes-là. Et il y a aussi un endroit que je rejoins qui est, on s'est construit un commun ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce soutien avec de la Fondation de France, on a développé un fonds contributif de soutien à la participation citoyenne. Et ce fonds est co-instruit entre des partenaires et des habitants. Donc nous, la Friche, là-dessus, on n'est que la caisse. Mais du coup, j'ai une personne avec moi, Nicolas Dupont, il faut que je le cite, qui fait vraiment ce travail de mise en relation et de connexion entre les personnes pour développer des initiatives qui, on l'espère, vont aussi transformer ce territoire. Donc je pense qu'aussi pour des entreprises, faut aussi aller regarder côté fondation. Je vois que pour nous, aujourd'hui, c'est assez structurant aussi de tendre la main avec les acteurs de la philanthropie et notamment la Fondation de France. Donc je tenais à souligner aussi ce pas de côté à faire nécessaire.
Merci beaucoup Stéphane. On va clôturer cette table ronde. En terme de conclusion, nous, ce qu'on avait envie de porter avec la Forêt des Possibles, c'est l'idée déjà de dire qu'il y a beaucoup de solutions, qu'on a présenté quelques-unes ici dans ce plateau et que vous en portez, et qu'il y en a bien d'autres. Et aussi peut-être avec une question, le fait de réinterroger ce que c'est que l'intérêt général, peut-être. Le fait de dire que l'intérêt particulier d'un côté, l'intérêt général de l'autre, c'est pas des choses qui sont en opposition. Si on aime bien utiliser notre image de l'arbre et de la forêt, qui s'inspire aussi des travaux de la permaéconomie, et notamment d'Emmanuel Delannoy, que vous connaissez très certainement, c'est le fait de dire que ça vient pas en opposition frontale, et qu'il s'agit aussi peut-être de revoir comment nos intérêts particuliers peuvent venir se mailler dans un intérêt général recomposé, surtout en pleine période de crise, comme c'est le cas actuellement. Donc je vous laisse avec cette réflexion-là. Et donc, je finirai aussi avec des remerciements. Déjà, Adélaïde, Julie, Lucas, merci à vous et on peut vous applaudir pour vos participations. Remercie aussi chaleureusement Sidi Diallo qui a pu enregistrer avec Radio Galère et on remercie Radio Galère. Merci à toi. Sans qui ce ne serait absolument pas possible, Marianne Morini et Camille Lecoq pour la Cité des Transitions. Également Félix Tédelin et Elissa Guyon qui ont été animateurs, animatrices avec moi. Et puis Arthur Fonero qui a à un moment aussi participé au lancement de cette table ronde. Donc merci Arthur.